voix nue. Cette semaine, Émilie Chaudet rencontre Yolande Moreau. Ce soir, la force de l'inconscience.
Bonsoir Yolande Moreau.
Bonsoir.
Hier soir, nous avons parlé de votre enfance, de cette tristesse et de cette forme de solitude qui vous habitait et vous a poussé vers vos premiers cours de théâtre. Il va en être question de théâtre, notamment ce soir et demain soir, car c'est sur des planches et face à un public que tout commence pour vous. Mais avant cela, il y a eu quelques années de recherche, d'errance, si on peut dire. Nous sommes au début des années 70, vous avez à peine 18 ans et vous quittez soudainement le foyer familial, les études, pour aller à la rencontre d'une communauté hippie dans les Ardennes, à Wagny. Vous y rencontrez un ancien marin qui deviendra le père de vos enfants. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette période et à quoi vous aspiriez à ce moment-là ?
Je pense qu'à 18 ans, j'ai tout fait. Je voulais connaître les garçons. Je voulais connaître les amis. J'en avais marre de l'école. Je voulais connaître autre chose. Je voulais être indépendante. J'ai tout fait. J'ai tout fait et... Ouais, je faisais de la musique à ce moment-là aussi.
De la guitare ?
De la guitare. Et je sais que j'ai pas pu partir l'été, justement. C'était la fin de... Comment on appelle ça ? Le bac. Désastreux pour moi. J'avais des examens de passage que j'ai jamais passé d'ailleurs. Parce que j'étais enceinte juste après. Et du coup, je peux pas. Mon horizon se rétrécit comme ça à l'été, et mes parents m'emmènent à un festival de musique pop, et ils me laissent, ils vont voir les Grottes de Spa, et là, je rencontre le père de mes enfants, qui allait rejoindre ses enfants dans une communauté qui était à Wagny à l'époque, où il y avait un fermier absolument formidable. Qui est mort maintenant, et qui était bûcheron à la main. Et il avait dit, mais c'est formidable, cette envie de retour à la nature. Si vous voulez, chez moi, il y a des champs à cultiver. Et donc, plein de gens ont été là-bas. Il y a un documentaire qui existe là-dessus, je crois, qui était fait par la RTB. Et les gens ont construit des cabanes dans les arbres. Mais ça a tenu un été, quoi.
Des cabanes en plastique.
Des cabanes en plastique.
Et vous y avez vécu alors ?
Non, moi pas. Moi, j'ai rejoint. Mon mari allait voir ses enfants, que je vois toujours là. Donc, ils sont plus âgés que les miens, qui sont les demi-frères de mes enfants. Et donc, je l'ai rencontré là. Et puis, peu de temps après, moi, je suis très vite partie de la maison pour vivre avec lui. Et c'était une communauté plutôt en dehors de Bruxelles. Et cette communauté dans les bois, ça m'a marqué, évidemment, parce que... Mais je vous dis, ça a tenu un temps, quoi.
Oui.
Mais ce fermier était fabuleux.
Il jouait du piano, non, avant de se mettre à couper du bois ?
Oui. Dites-vous, vous êtes bien renseigné. Il était bûcheron à la main, c'est un ancien clown. Il était parti, étant très jeune. Son rêve, c'était de parcourir l'Europe et de faucher les champs, donc avec une faux... On dirait qu'on parle du siècle de 1900, je sais pas, mais... Évidemment, très vite, il y a eu une machine, il n'a pas pu faire ça, mais il était bûcheron à la main. Jusqu'à la fin de sa vie, il n'a jamais voulu entendre parler de tronçonneuse. Et comme ses mains étaient abîmées, il fallait voir le regard qu'il avait, cet homme merveilleux. Et il jouait du piano le matin, quand ses mains n'étaient pas trop endolories. Voilà. Quand même, c'est des rencontres qui marquent, hein.
Alors, comme vous l'avez déjà dit à plusieurs reprises, Yolande Moreau, vous vous êtes retrouvée enceinte très rapidement. Vous avez eu votre premier enfant à 19 ans, l'autre à 20. Puis vous quittez très vite le père de vos enfants.
À 21.
Comment ça s'est passé pour vous à cette époque-là, toute jeune que vous étiez, sans personne autour de vous, avec deux petits-enfants ? Est-ce que c'était brutal ? Est-ce que c'était dur ?
Pas tellement. D'abord, j'étais, je crois, profondément inconsciente. J'ai vécu, par exemple, 2 ans à la bougie, parce qu'on m'a coupé l'électricité. Mais vivre à la bougie coûte beaucoup plus cher que l'électricité. J'avais l'argent pour la remettre. Mais en même temps, je parle de cette période-là, ça me semble un ovni quand j'en parle. Je chauffais avec... j'avais un poêle de Louvain qui marchait au charbon. Et ça, j'aime bien raconter ça, parce que je crois que je l'ai déjà raconté, mais... un jour, mes jeunes enfants étaient au lit et j'avais une grosse bouilloire d'eau chaude sur le feu qui me servait d'eau chaude, quoi. Et un jour, mes enfants étaient au lit et ma bouilloire se met à chanter. Et j'écoute cette bouilloire, je trouvais ça vraiment joli. Mais je me dis, putain, j'ai 20 ans et j'écoute une bouilloire. Et oui, j'avais envie d'autre chose quand même. C'était en même temps dur à cause de ça. Parce que j'ai dû assumer un peu ces trucs-là. Le manque d'argent, parce qu'il y a des trucs beaucoup moins marrants. J'envoyais des fois mes enfants faire des courses à l'épicerie en disant « Maman payera demain ». Ils s'en rappellent. C'est moins poétique que la bouilloire. Hein. Et alors, comme il n'y avait pas d'eau chaude, il n'y avait pas d'écoulement d'eau. Ça aussi, j'aime bien me rappeler ça, parce que j'avais... cette bouilloire de 5 litres quand même. Et j'avais une baignoire en zinc dans laquelle je pouvais me mettre entière. Donc je prenais des bains, mais pas trop souvent quand même. Mais donc je devais tirer cette baignoire à l'intérieur, la remplir avec de l'eau qui cuisait sur... c'était une grande... Il y avait cette bouilloire, mais il y avait aussi des bassines en zinc avec de l'eau chaude. Et quand j'avais fini, la traîner dehors pour la vider à l'extérieur. Et tout ça avec la bougie. Et de temps en temps, je prenais un bain là-dedans. Et je me rappelle m'être dit, ce serait quand même bien qu'il y ait un homme qui pousse la porte. C'est quand même un peu... Je vous dis que j'étais inconsciente. D'ailleurs, un jour, j'ai un copain qui est passé, on s'est revus quelques fois. C'est le climat de l'époque aussi. Hein. C'est le climat de l'époque, quand je pense. C'était quand même un peu à côté de la plaque. Hein. Pour mes enfants aussi. Parfois, je me remémore cette époque-là et je fais des cauchemars la nuit, je n'y n'ont pas leur sac de gym. Tu vois des trucs où moi, j'étais pas quand même... J'aurais eu des enfants plus tard, j'aurais été un peu plus rigoureuse quand même. Je vois comme mes enfants sont rigoureux avec les leurs. Moi, je l'ai pas été, quoi. Je m'en veux pour ça.
Mais eux, ils vous en veulent ?
Leur enfant, c'est comme ça. Mais par exemple, je vois bien que mon fils est beaucoup plus exigeant avec ses enfants parce qu'il trouve que je l'ai pas été, bien sûr.
C'est une époque, Yolande Moreau, où vous avez cumulé les petits boulots, justement, pour arriver à joindre les deux bouts. Vous avez, comme vous le disiez hier soir, essayé d'élever des lapins. Vous avez été peintre en bâtiment, femme de ménage. Ouais. Vous avez essayé de tanner des pots aussi.
Des quoi ?
Des pots.
Vous avez, oui, vous ça, avez c'est pour les lapins.
Ça, c'est pour les lapins.
Une fois seulement.
C'était trop dur.
Ah, c'est un copain qui m'a montré comment on fait. Ça pue, c'est horrible. Je ne l'ai jamais fait.
C'était une époque où voilà, vous avez cumulé les petites expériences professionnelles. Et je me demandais, en voyant Séraphine briquer le parquet, comme elle fait avec cette sueur, avec cette implication de tout son corps, je me suis demandé si parfois pour préparer, par exemple, ce genre de rôle, ces images de cette époque-là ne vous sont pas revenues en tête ou dans votre corps. S'il n'y a pas eu une mémoire du corps qui a joué à ce moment-là pour que...
Je pense en fait que partout, là où on passe... ça nourrit. Et que le fait de me débrouiller quand même seule avec deux enfants pendant longtemps, ça m'a... je vois les choses... j'ai pris sur moi beaucoup. Je me rappelle, quand j'ai eu ma première deux chevaux, j'ai pris des cours pour la réparer. J'ai pas persisté parce que je suis vraiment pas bonne. Et c'est que finalement... assez facile d'appeler les copains, mais au début je me dis il faut que je compte sur moi. Il y avait quand même un truc où oui je me suis et ça je pense que ça marque pour plus tard.
En quoi cet épisode de vie assez aventureux et j'imagine compliqué d'un point de vue angoisse du lendemain, comment est-ce que cette période de vie vous a marqué pour plus tard justement ? Comment est-ce qu'elle vous nourrit aujourd'hui ?
Il y a quand même eu un truc à un moment donné, je me dis, pas savoir acheter un bouquin, ça devient un peu con. Je me suis quand même dit ça. Et donc je me suis dit que j'allais me débrouiller. Mais je me rappelle aussi, c'était pas vécu de moment tragique, c'était pour exemple plus tard. Je me rappelle régulièrement ne plus avoir, j'avais genre 10 francs belges, ça veut dire 1 franc 50, c'est même pas un euro. Et avec ça, je me dis, mais c'est ridicule. Et du coup, avec ça, j'allais acheter des fleurs. Je dis, je vais pas acheter du pain, c'est mesquin. Mais je me suis débrouillée plusieurs fois avec ma guitare au clou, parce que j'avais une bonne guitare. Et puis le lendemain, l'époque n'est pas la même, je retrouvais du boulot. Assez facile. En plus, je viens pas d'un monde, je viens quand même dans les amis et tout ça. Vient, tu vois, il y avait, je me rappelle, il y avait des régions un peu sinistrées chez nous de sidérurgie. Je parle les mines qui fermaient sur le Roi-Mons à l'époque et tout ça, c'était dur. C'est des villes qui ont changé, qui sont très agréables à vivre maintenant, mais qui à l'époque, je dis, si tu nais comme ça dans un environnement où c'est pas possible de retrouver du travail, c'est très dur. C'était pas mon cas. Si je voulais travailler comme femme de ménage, je trouvais tout de suite.
Vous aimiez bien d'ailleurs ce métier. Vous l'avez dit dans une interview, j'aimais bien ce métier de femme de ménage parce que ça me permettait d'entrer dans l'univers des autres.
Oui, je sais pas si j'adorais vraiment ça, mais par exemple le ménage, ça me dérange pas faire la vaisselle et... oui, on est un peu voyeur quand même, mais je sais pas, je trouve en même temps que j'ai quand même la chance de faire ce que je fais, quoi.
Et quelques années après, donc à la fin des années 70, vous trouvez ce travail dans un théâtre pour enfants de Bruxelles, un théâtre où il fallait savoir un peu tout faire, jouer sur scène, mais aussi fabriquer des costumes, fabriquer des décors. Vous y êtes resté 3 ans dans ce théâtre pour enfants. J'imagine que c'est un lieu où vous avez appris beaucoup de choses importantes. Comment vous vous sentiez sur cette scène-là? Quel genre de personnage est-ce que vous jouiez, par exemple?
D'abord, j'étais hyper contente de retrouver une sociabilité, justement, par rapport au petit boulot. J'avais un travail avec des amis que je vois toujours maintenant. C'est là où j'ai connu Jaco van der Mal.
Le réalisateur du Tout Nouveau Testament.
Oui, oui.
Et puis, vous avez joué la femme de Dieu.
La femme de Dieu.
Benoît Poulvorde. Ouais.
J'ai connu là, et puis enfin, j'ai d'autres gens là aussi. J'aimais bien, c'est là où j'ai découvert... justement des clowns tchèques, je me rappelle Adam et Améa. Et après ça, que j'ai... Parce que là, oui, j'ai découvert d'abord une structure, puisque on travaillait pour les écoles, on jouait le matin et l'après-midi, on faisait beaucoup de choses. Je dis, je suis une manuelle, on faisait les costumes nous-mêmes, les décors en frigolite, la musique nous-mêmes, j'avais repris mon violon, et un univers d'amis, des amis.
Qu'est-ce que vous avez appris de vous-même pendant cette période-là?
C'est une période assez heureuse. J'avais déjà, je ne sais pas moi, 27 ans, un truc comme ça. C'est assez heureux. Et par rapport au théâtre, je me disais, j'ai toujours un peu, tu vois, j'ai jamais été une bombe physiquement, mais là j'ai toujours les rôles un peu comiques. La cuisinière, tu vois. Mais qui avait des rôles un peu... c'est pas moi qui faisais la princesse, quoi. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a donné l'envie de faire cette école de clown. En plus, entre temps, j'avais découvert Zouk, j'avais découvert Améa, et ça m'a dirigé plus ailleurs en rentrant de cette école vers le théâtre pour adultes.
Voilà, donc comme vous venez de le dire, c'est donc à cette époque que vous faites la découverte de Zouk, qui est une comédienne humoriste qui apparaissait toujours sur la scène avec son visage rond, ses grands yeux noirs, sa raie au milieu. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, cette comédienne, cette humoriste, quand vous l'avez vue la première fois? Est-ce que vous vous souvenez du choc que ça vous a procuré?
Elle employait les mots différemment. Et on ressentait une grande émotion à la voir, à comment elle employait les mots. Et moi qui étais très... le théâtre classique ne me faisait pas envie. Cette manière d'aborder, après je suis revenue, on peut suivre plein de... Il y a plein de chemins possibles. Mais à l'époque, je me dis, tiens, ça c'est un chemin vraiment nouveau. En l'entendant. C'est cette manière d'employer les mots, je crois.
Cette diction très particulière,
ces voix... De les employer, de répéter, et c'est comme de la peinture. Je trouve que finalement, le film, c'est comme ça aussi. C'est des touches de peinture. Et c'est pas une écriture du tout littéraire. C'est une écriture au cinéma, on peut dire, passe-moi le sel, et avoir plein d'autres intentions en dessous. Et d'ailleurs, quand je reçois un scénario d'un réalisateur ou d'une réalisatrice, j'aime bien lire le scénario et mon travail consiste à imaginer plein de possibles en dessous le dessous des phrases. On ne peut rien prévoir parce qu'on ne sait pas ce que le réalisateur veut, on ne connaît pas la nature dans laquelle on sera, on ne connaît pas ce que l'autre va faire. On ne peut pas prévoir ni fixer des choses. On peut juste réfléchir à tous les possibles.
Et c'est ça qu'elle vous a appris, Zouk.
Mais je trouve cette manière de dire des mots, c'est comme pour moi, c'était de la peinture. Et je vous dis, pour moi, le cinéma aussi. C'est pas une écriture littéraire. Et elle n'avait pas une écriture littéraire, mais elle a une écriture où tout à coup, les choses parlent terriblement, parlent d'elle, parlent de la société, parlent de nous.
Et alors, à la découverte de Zouk succède un autre moment décisif dans votre début de vie de comédienne, qui est ce stage donc chez Philippe Gollier. Vous décidez de monter à Paris seule dans votre deux chevaux,
oui.
et d'apprendre à faire le clown.
Voilà. Alors, Gollier, pour moi, c'est très important aussi. J'ai découvert, justement.
Comment vous décidez de passer le pas, justement, de se dire, bon, allez, il faut que j'y aille, il faut que j'apprenne à faire ça, il faut que je me lance.
Je pense que les gens avec qui j'étais à ce moment-là, au théâtre des jeunes et tout ça, ça se clôturait un petit peu. C'est une histoire qui se clôturait. Et je me demandais comment j'allais continuer cette histoire de théâtre qui me plaisait bien, de groupe qui me plaisait bien. J'avais souvent ces rôles comiques et j'avais un peu envie d'aller voir. J'avais une copine qui avait fait cette école. J'en avais fort envie. Et en même temps, il y avait les enfants. Donc, je savais pas comment faire. Et c'est un copain, je me rappelle, qui m'a dit, donne-le à ton mec, vas-y. C'était pas des cours qui duraient très longtemps, hein. Je suis partie 3 mois maximum. Vas-y, fais-le. C'était culotté pour moi, parce que ça voulait dire... c'était quand même moi qui m'occupais des enfants, tout à coup. Je suis partie et...
À Paris, sans personne pour vous accueillir.
Bah de nouveau, un culot fou, mais le culot des jeunes qui savent pas. Je suis arrivée l'après-midi en deux chevaux, avec une deux chevaux bourrée, avec un petit réchaud, des trucs comme ça, couverture, des couettes, tout ça. Mais je savais pas où j'allais dormir. Le premier soir, j'ai trouvé par... l'intermédiaire, mais j'ai appelé sur place à Paris. Et le lendemain, j'étais décidée d'aller dans des squats, etc. Mais j'ai trouvé, je me rappelle, il s'appelait Jérôme Lemaire, qui avait un atelier rue des Thermopyles dans le 14e, où il faisait des sculptures. Et j'habitais là, tout près du métro Pernetti. Maintenant, je crois que la rue est assez chicose, parce que c'est une toute petite rue... À l'époque, il y avait encore un petit café où tous les gens de la rue allaient, chez Madame Aline. Là aussi, j'ai dû faire du ménage pour payer mes cours. Après, je suis plus allée en deux chevaux. J'allais à Gare au Nord, je faisais les camionneurs pour rentrer le week-end pour aller voir les enfants.
Et alors, ces cours, comment ça se passait avec Philippe Gollier? Il avait l'air très exigeant, ce professeur de théâtre.
C'est surtout un remarquable homme qui s'est dirigé les acteurs. J'ai jamais vu ça chez aucun metteur en scène, d'ailleurs. Pour amener les acteurs à les découvrir, même. Découvrir les autres, comment ils faisaient. Et en même temps, une exigence, beaucoup d'humour aussi. J'aimais vraiment beaucoup. C'était une rencontre pour moi marquante. Des fois, on rentrait par exemple, sur le plateau pour faire un exercice. Merci, suivant, c'est pas une entrée. Ah, tu le prenais un peu ouf à la gorge. Je veux dire, il y a des pas drôle. Mais des années après, j'ai pensé à lui quand j'étais au théâtre, où il disait penser à Apollo qui est dans la salle au dernier rang. Des fois, en jouant, j'ai jamais oublié des phrases qu'il nous disait. Penser à Apollo, jouer pour le dernier qui est dans... tout au fond de la salle. Et en partant aussi, de nouveau, moi qui, en partant de ses cours, il m'a dit, tu dois écrire. De nouveau, un peu Louis Aymon, Maria Chapdelaine, machin. Tu dois écrire. Alors moi qui suis pas, ça m'a de nouveau donné une fierté, je dirais.
Pourquoi vous croyez-vous qu'il vous a dit, tu dois écrire?
Je pense que on a fait des exercices en Comédia d'arte, ou d'ailleurs où je joue avec un demi-masque, celui que j'ai repris, qui avait été créé par une copine, qui m'a donné une liberté de parole derrière le masque. Après, j'ai voulu la retrouver sans masque. Et par exemple, chez Jérôme Deschamps, j'ai mis très longtemps à oser parler.
Et oui.
Peut-être si j'avais eu un masque, ça aurait été plus rapide.
Jérôme Deschamps, donc, et Masha Makeyev, dont on va parler demain soir. Mais oui. Alors, justement, Philippe Gaulier vous donne le conseil d'une vie. Tu dois écrire. Ça donne un spectacle qui a eu un succès fou. Votre premier spectacle, un seul en scène,
oui,
Salle à faire du sexe
exemple.
Et du crime.
Oui.
Voilà.
En rentrant, j'avais pas de boulot.
Oui.
Je retourne, je me dis, ou bien tu continues des petits ménages, des petits boulots, ou bien vas-y, fonce. Et puis, je connaissais personne au théâtre. Donc, la seule alternative, c'était faire un truc toute seule. Hein. Et donc, là, de nouveau, j'ai commencé à écrire au Café du Coin. J'habitais en région flamande à l'époque. J'allais au Café du Coin pour écrire, pour me donner des horaires. Parce qu'à la maison, il y a toujours un truc à faire. Donc, j'écrivais là et dans les cafés dansants, l'après-midi, où il y avait des vieilles qui venaient danser. Là, j'adorais ce lieu, qui n'existe plus. Des vieilles, l'après-midi, qui venaient draguer. Donc, il y avait un orchestre, et puis elles se pomponnaient. J'ai dit, putain, encore si vieille, tu vois, continuer, c'est jamais fini, à séduire, à espérer, à glousser dans les toilettes. Enfin, ahurissant.
Ça vous a inspiré,
je comprends mieux maintenant, j'ai plus l'âge.
Ça vous a inspiré donc le personnage que vous avez interprété sur scène dans
oui.
ce spectacle, Salle à faire du sexe et du crime,
oui.
qui est une femme qui commence par dire « j'ai trempé dans un crime », et en l'occurrence ce crime c'est celui de son mari.
Oui.
Elle arrive sur scène avec les bras ensanglantés et un poireau qui dépasse de son sac à main, et ce masque donc que vous avez commencé à évoquer,
oui.
avec cet immense nez et ses plumes de paon en guise de cheveux.
Oui.
Et donc c'est un spectacle qui vous a valu d'ailleurs le premier prix au Festival du Rire de Rochefort en Belgique, en 82,
Belgique.
Qui a valu une reconnaissance professionnelle dans toute la Belgique
oui.
d'ailleurs.
Et même dans les pays francophones, parce que j'ai commencé à tourner, j'avais pas assez pour faire un spectacle, j'ai dû vite l'agrandir et du jour au lendemain j'ai tourné beaucoup en Belgique, en France, au Québec, en Suisse.
Vous l'avez joué un peu partout, aussi bien
oui.
dans des salles de théâtre, à l'Olympia...
Que sur des quais et pierres.
Voilà, c'est ça, que dans des maisons de retraite.
Oui.
Qu'est-ce que vous y avez mis de vous dans ce personnage, ou des gens qui vous ont accompagné dans l'enfance ou dans l'adolescence?
Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on y met. Le ton est un peu surréaliste quand même. Il y a beaucoup de choses qui me sont proches, mais que je suis peut-être la seule à savoir. Et en tout cas, il y a des choses que je peux dire maintenant, mais je voulais parler du vide intérieur. Ça, certainement. Après, il y a une allusion avec des marins et tout ça. Mais bon, j'en fais, ouais.
Vous voulez dire que ça vous a effleuré l'idée de tuer votre mari?
Non, enfin, pas tu. En plus là, le meurtre est complètement. Il y a une atmosphère quand même. On parle de la folie ordinaire. Et on parle de la folie. C'est plus la solitude ou l'envie d'aimer pour moi qui est au cœur de ce spectacle que le meurtre qui est complètement démystifié. Et ce spectacle raconte sans arrêt. Elle pose les faits, j'ai les bras ensanglotés, c'est à l'affaire, j'ai trempé dans un crime. Puis il y a des moments de silence très très longs. Et ces silences sont plus importants. C'est, est-ce que vous m'aimez? Voyez la boucle.
Oui,
je fais des choses épouvantables. Je suis moche. Et je poussais mon ventre à l'époque, j'étais pas grosse, mais je poussais mon ventre en avant. Et je jouais quelqu'un de beaucoup plus âgé que moi. Puis c'est marrant parce que j'ai continué à le jouer à cet âge-là, et puis bien après.
Donc quand la mer monte, c'est un personnage que vous reprenez.
Ah oui, je rentrais plus dans ma robe, d'ailleurs, je suis boudinée.
Vous aviez à peine 30 ans à l'époque où vous avez créé ce spectacle.
Oui. J'ai joué d'abord longtemps seule, parce que je ne voyais pas trop. Alors, j'étais beaucoup invitée dans les festivals d'humour, etc. Parce que c'est un spectacle tragicomique, c'est complètement tragique, mais on rit. Et puis je me dis, mais comment moi je continue? Parce que je ne me voyais pas faire, continuer à faire un spectacle seul. J'ai bien essayé de faire des petits bouts, j'avais commencé. Je me rappelle avoir commencé quelque chose avec une femme qui avait 5 cancers et une petite bronchite. J'ai pas continué. Des choses comme ça. Je voulais faire un truc sur Dalida aussi, je me rappelle. Parce que j'avais acheté, de nouveau, l'idée du cancer était présente. J'avais un crâne de chauve et une grande perruque blonde.
Ça, c'était à la même époque, dans les années 80?
Oui, c'est quand j'ai voulu continuer après. Et puis, en fait, j'ai fait un truc, une pièce classique avec des gens. J'ai joué avec des gens. Et très vite, j'ai entendu parler des stages que Jérôme Deschamps donnait. Et moi, j'ai voulu faire quelque chose avec des amis à Bruxelles, dont Marie des Apmama, qui est devenue après les Apmama, qui faisait des... Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la musique. Et il y avait ma copine Nina, qui est malheureusement décédée.
À qui vous dédiez Quand la mer monte?
Oui. Et qui, elle, a fait un spectacle, plutôt de danse, chorégraphie. Mais à l'époque, on s'était réunis quelques fois. Je voulais faire une chorale de filles avec un homme dedans. Ça pouvait ressembler à ce que... Et donc, j'ai voulu aller faire un stage chez Jérôme Deschamps pour voir comment on faisait.
Et donc, l'esprit de la troupe et l'envie de la troupe, c'est ce dont on va parler demain soir. Merci.
D'accord.
Yolande Moreau.
Merci à vous.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Émilie Chaudet avec Yolande Moreau. À voix nue, réalisation Guillaume Baldi, prise de son François Rivalan, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, se réécoutez ce podcast sur franceculture.fr et l'appli Radio France.